VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le favori de la primaire démocrate Joe Biden a essuyé de vives attaques hier lors d'un débat avec ses rivaux qui ont passé au crible ses positions passées sur l'immigration ou la politique pénale depuis son engagement public il y a près de 50 ans. Compte tenu du nombre inédit de prétendants à l'investiture démocrate, le débat avait été scindé en deux parties avec 10 candidats chaque soirée. Le premier volet mardi avait déjà jeté une lumière crue sur les lignes de fracture au sein du parti entre Elizabeth Warren et Bernie Sanders, héros de réformes radicales, et une série de partisans du pragmatisme qui leur avait reproché de faire des promesses de contes de fées. Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit état de l'Iowa et ce sera le 3 février 2020. L'administration américaine a pris mercredi des sanctions contre le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, dans le cadre de la campagne de pression que Washington entend exercer sur Téhéran. Idrissa Seydoudia.
Les États-Unis ont pris des sanctions contre le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif, accentuant encore leur campagne de pression maximale sur le régime iranien qu'ils accusent de déstabiliser le Moyen-Orient. Zarif est le visage du régime qui répand à l'étranger la propagande et les campagnes de désinformation favorables au programme nucléaire de Téhéran, à ses missiles balistiques et à ses réseaux terroristes, a déclaré à l'AFP un haut responsable américain qui a requis l'anonymat. Fin juin, Washington avait adopté des sanctions dures contre le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Le président Donald Trump avait prévenu que M. Zarif subirait bientôt le même sort. Pour ce dernier, Zarif, Washington tente de réduire l'Iran au silence sur la scène internationale.
Le président iranien Hassan Rouhani a estimé jeudi que les sanctions américaines imposées au chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, traduisaient la peur et l'impuissance de Washington sur fond de tensions croissantes entre les deux pays ennemis. Le président russe Vladimir Poutine s'est vu proposer de l'aide par son homologue américain Donald Trump pour combattre les gigantesques feux de forêt sévissant en Sibérie, a affirmé le Kremlin dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi. Les deux dirigeants se sont entretenus au téléphone mercredi soir à l'initiative américaine selon le communiqué. Washington et Séoul mèneront comme prévu la semaine prochaine leurs exercices militaires conjoints, a annoncé un responsable du Pentagone en dépit des critiques de Pyongyang qui vient de tester des armes en signe de protestation. Ces manœuvres doivent débuter lundi et durer un peu plus de deux semaines. Séoul et Washington avaient en début d'année réduit leur ampleur sur fond de processus diplomatique en cours avec Pyongyang. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit évoquer aujourd'hui à huis clos les ressentis nord-coréens, selon des sources diplomatiques. Et par ailleurs, un nord-coréen est passé au sud en traversant la zone démilitarisée, DMZ, qui divise la péninsule, a annoncé aujourd'hui l'armée sud-coréenne, ce qui constitue une défection rare au travers d'un secteur le plus fortifié au monde. Trois policiers ont été tués jeudi et 20 autres personnes, dont de nombreux policiers, blessés dans un attentat suicide contre un QG des forces de l'ordre à Aden, dans le sud du Yémen, en guerre, selon des médecins et des responsables de sécurité. L'attentat à la voiture piégée a visé l'entrée de ce QG, situé dans le quartier de Sheikh Othman, au moment où les policiers se rassemblaient pour saluer le drapeau national.
Nos infos sur voaafrique.com.
À Washington, il est 7h04, on revient en RDC. Un troisième patient a été testé positif au virus d'Ebola mercredi à Goma, dans l'est de la RDC. Le deuxième cas d'Ebola détecté à Goma est lui décédé. Et mercredi, 15 personnes ont été mises en quarantaine dans une ville riveraine du lac Kivu, dans la province voisine du sud Kivu, et des bateaux en provenance de Goma ont été bloqués pendant plusieurs heures pour des contrôles sanitaires par les autorités de la même province. Ekia Badou nous en dit plus.
15 personnes, dont 7 venant de Goma, ont été mises en quarantaine à Birava, au nord du lac Kivu, à environ 30 km au nord de Bukavu. Hier, 5 bateaux en provenance de Goma ont été immobilisés dans le port de Bukavu. Chaque jour, plusieurs rotations de bateaux, certains transportant jusqu'à 500 passagers ainsi que des marchandises, relient Goma et Bukavu. C'est la première fois que des cas suspects ont été recensés dans le sud Kivu. Le deuxième malade signalé à Goma est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le docteur Haruna Abedi, coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la province du Nord Kivu. La victime, âgée de 46 ans et père de 10 enfants, s'était rendue en Ituri où il avait contracté le virus. L'apparition de ce cas à Goma, ville jumelle de Gisenyi au Rwanda, renforce la psychose et la menace des propagations de l'épidémie responsable de 1803 morts depuis un an.
Et les autorités congolaises ont déploré aujourd'hui la décision unilatérale de Kigali de fermer la frontière avec la République démocratique du Congo après l'annonce d'un troisième cas d'Ebola à Goma, carrefour commercial d'un à 2 millions d'habitants situés à la frontière avec le Rwanda. Dans un communiqué sur décision unilatérale des autorités rwandaises, les citoyens rwandais ne peuvent pas sortir pour Goma, tandis que les Congolais, eux, peuvent sortir de la ville frontalière rwandaise de Gisenyi, mais sont interdits d'y entrer. Cette décision préjudicie plusieurs Congolais et expatriés qui vivent à Gisenyi, mais travaillent à Goma, rapporte un communiqué de la présidence congolaise. Au Sénégal, à Damagaï, un ancien journaliste a été inculpé hier d'offense au chef de l'État. Sur les réseaux sociaux, il avait tenu des propos jugés insultants visant le président sénégalais Macky Sall. Bagasikoura.
Damagaï est également inculpé de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique. Selon son avocat, il a passé sa première nuit à la prison de Rebeus à Dakar. Il était en garde à vue depuis son interpellation lundi par la division des investigations criminelles de la police judiciaire. Monsieur Gaï a été journaliste dans plusieurs médias. Il publiait sur sa page Facebook depuis plusieurs semaines des messages crus, voire obscènes, mettant en cause la vie privée du président Macky Sall et de son entourage. Des hommes de médias sénégalais ont pris leur distance avec ces méthodes. Dans un bref entretien téléphonique à l'AFP, Adama Gaï dit se considérer comme un prisonnier d'opinion. Son arrestation a été dénoncée par la section sénégalaise d'Amnesty International. Sidi Gassama, responsable de cette ONG, a appelé à sa libération.
Des heurts ont éclaté hier dans la capitale du Libéria, Monrovia, lors d'une manifestation contre le président George Weah, puis dans l'après-midi lors de l'annonce de la victoire probable d'un candidat de l'opposition lors d'une élection sénatoriale partielle. La police est intervenue à la mi-journée en utilisant des gaz lacrymogènes après avoir été la cible de projectiles pour empêcher quelques centaines de manifestants de se diriger vers le Parlement. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez El-Sarraj, a protesté contre des contre-vérités de l'émissaire de l'ONU en Libye, Hassan Salamé, qui a dressé en début de semaine devant le Conseil de sécurité de l'ONU un tableau accablant de la situation libyenne. Selon le bureau d'information du GNA, M. El-Sarraj a convoqué hier dans son bureau à Tripoli le chef de la mission d'appui de l'ONU en Libye, la MANUL, pour lui remettre une note de protestation contre des contre-vérités dans son rapport sur la situation en Libye. La reprise des combats depuis le début en avril de l'offensive sur Tripoli du maréchal Haftar a fait environ 1 000 000 de morts et poussé plus de 100 000 personnes à la fuite, selon les estimations respectives de l'OMS et de l'ONU. Et puis, la justice algérienne a refusé la mise en liberté provisoire de Larda Bourga, vétéran respecté de la guerre d'indépendance, accusé d'outrage et d'atteinte au moral de l'armée et incarcéré depuis un mois. L'arrestation et le placement en détention provisoire le 30 juin de M. Bourga, 86 ans, inculpé d'outrage à corps constitué et de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale, a suscité l'indignation en Algérie. Les soutiens de M. Bourga attribuent ces poursuites aux sévères critiques qu'il a formulées contre le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, devenu le véritable homme fort de l'Algérie depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika face à un mouvement de contestation populaire inédit qui se poursuit d'ailleurs. Jean-Roger Bion à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes et vous aurez avec vous Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.